France Inter, un ami nommé Jacques Brel. Un feuilleton de la RTBF et des médias francophones publics. Aujourd'hui, l'enfance.
J'étais un enfant, mais je n'arrive pas à savoir ce que c'est qu'un adulte. Et je regarde pourtant très attentivement, et je trouve ça assez gris, si vous voulez, avec tous les signes extérieurs que cela comporte, et je préfère essayer de rester un enfant. Mais c'est pas volontaire, d'ailleurs, c'est parfaitement involontaire, si vous voulez. Je n'arrive pas. C'est-à-dire que s'il me fallait être adulte, il me faudrait jouer. Voilà.
Un enfant, ça vous décroche un rêve, ça le porte à ses lèvres, et ça part en chantant. Un enfant, avec un peu de chance, s'entend le silence, et ça pleure des diamants, et ça rit à n'en savoir que faire, et ça pleure en nous voyant pleurer, ça s'endort de l'or sous les paupières, et ça dort pour mieux nous faire rêver. Écoute le merle qui dépose ses perles sur la portée du vent. Un enfant, c'est le dernier poète d'un monde qui s'entête à vouloir devenir grand. Et ça demande si les nuages ont des ailes, et ça s'inquiète d'une neige tombée, et ça s'endort de l'or sous les paupières, et ça se doute qu'il n'y a plus de fées, mais un enfant, et nous fuyons l'enfance, un enfant, et nous voilà passants, un enfant. Et nous voilà patience, un enfant. Et nous voilà passé.
Pour moi, l'enfance est une notion géographique. Je crois qu'on est, on est né dans un coin qui est l'enfance. C'est géographique. Pour moi, l'enfance, c'est un ciel bas. Il fait gris, il fait humide. Et il y a des adultes que je ne comprends pas. Ça aurait très bien pu se passer, je crois, dans le Limousin, ou en Bretagne, ou à Paris. Il se fait que ça s'est passé en Belgique. Mais l'enfance, c'est plus une notion géographique. Une notion plutôt historique. Enfin, et je crois que l'enfant est parfaitement nomade, donc aventurier, et on lui apprend petit à petit à être prudent, à être sage, à être économe, pas dans le sens même pour pognon, dans le pire sens du mot, enfin, d'économe de ses forces. on lui apprend des tas de choses abominables. L'espoir, mais le mauvais espoir, en disant, il va t'arriver des choses. Or, il ne nous arrive jamais rien. Moi, dans ma vie, il ne m'est arrivé que moi.
Un bouquin qui m'avait fortement frappé, c'était Billy ou la fumée, Jack London. Et j'avais lu ça, je devais avoir 10, 11 ans, 12 ans, enfin quelque chose comme ça. En réalité, j'ai eu une enfance où il ne se passait presque rien. Il y avait un ordre établi assez doux. C'était pas rugueux du tout, c'était pas dur du tout. C'était paisible et forcément morose. Enfin, ça, on ne le sait qu'après. J'étais fils de bourgeois, mais ça aussi, je ne l'ai su que longtemps après, puisque pendant la guerre est arrivée au moment où j'aurais dû me rendre compte que j'étais fils de bourgeois, et la guerre a fait qu'il n'y avait pas plus de fils de bourgeois que d'autres choses. On était surtout soi-même pendant la guerre. Donc j'ai su que j'étais fils de bourgeois que très longtemps après. Je crois que c'est assez normal, je vivais dans un monde d'adultes. Mes parents étaient assez âgés, mais mon frère est toujours plus âgé que moi, donc il y avait assez peu de contact. Et il y avait des valeurs mises en avant, enfin des valeurs que eux respectaient infiniment et qui ne m'intéressaient pas. Il y avait une valeur d'argent certainement qui dominait tout ce milieu. Mais ça aussi, je ne l'ai su que longtemps après. À 11 ans, c'est absolument rien de tout ça. Je trouvais ça triste. Et je trouvais ça sans imagination. Je trouvais que ces gens se donnaient beaucoup de mal pour une chose que j'ignorais. Alors j'avais on peut pas parler d'amis à cette époque-là, des camarades, enfin. On dirait des copains, je crois, maintenant. Et puis, je m'inventais des petites guerres, je m'inventais des aventures. J'aimais bien raconter des histoires, entièrement fausses, enfin, entièrement. Oui, je rêvais de Chine, c'est ça. Je rêvais de la Chine. Je me sentais parfaitement seul, donc le monde que je m'inventais, je devais en être à la fois le roi et l'esclave. Quoi, pour dire ça bêtement, je ne m'aimais pas. Ça n'a pas changé. Je ne m'aimais pas, donc je n'attendais rien. J'ai jamais compris que des gens puissent attendre. Rien n'attend. Ou alors il faut le faire. Ça, bien sûr. J'ai jamais su ce que ça voulait dire. Honnêtement, je ne plaisante pas. L'espérance, le désespoir, en fait, tout ça, ça ne m'évoque absolument rien. Mais je m'inventais un monde où qui me suffisait. J'étais seul. Ça, je le constatais. J'étais assez seul. Et le rêve que j'essayais de communiquer se heurtait à des chiffres ou à des raisons d'État, ou à des raisons. Enfin, des raisons qui n'étaient pas les miennes. Donc je devais me débrouiller tout seul. Ça n'est pas triste du tout, hein. Ça n'est pas triste du tout. C'est morose et je suis ravi d'avoir eu une enfance morose. Ça doit être abominable d'avoir une enfance heureuse, parce qu'après, vraiment, c'est terrible.
Voir grand-mère, grand-mère et sa poitrine, grand-mère et ses usines et ses vins secrétaires. Faut voir mère grand diriger ses affaires. Elle vend des courants d'air déguisés en coups de vent. Faut voir grand-mère quand elle compte son magot. Ça fait des tas de zéros pointés comme son derrière. Mais pendant ce temps-là, grand-père court après la bonne en lui disant que l'argent ne fait pas le bonheur. Comment voulez-vous, bonnes gens, que nos bonnes bonnes et que nos petits épargnants aient le sens des valeurs? Faut voir grand-mère, c'est une tramontane qui fume le Havane et fait trembler la terre. Voir grand-mère cerclée de généraux, être culotte de peau et gagner leur guéguerre. Faut voir grand-mère dressée sous son chapeau, c'est Waterloo où serait pas venu Blücher. Mais pendant ce temps-là, grand-père court après la bonne en lui disant que l'armée, elle, voulez-vous, bonne mêmes gens que nos bonbonnes et que nos chers piou-piou aient le sens des valeurs. Faut voir grand-mère s'assurer sur la mort, un petit coup de presbytère, un petit coup de remords. Faut voir grand-mère et ses ligues de vertu, ses anciens combattants, ses anciens combattus. Faut voir grand-mère quand elle se croit pécheresse, un grand verre de grand-messe et un doigt de couvent. Mais pendant ce temps-là, grand-père court après la bonne en lui disant que les curés sont farceurs. Comment voulez-vous, bonnes gens, que nos bonnes bonnes et que nos petits incroyants aient le sens des valeurs? Mais il faut voir grand-père dans les bistrots bavards où claquent les billards et les chopes de bière. Faut voir père grand caresser les roseaux et feuiller les étangs et pleurer du Rimbaud. Faut voir grand-père dimanche finissant, honteux et regrettant d'avoir trompé grand-mère. Mais pendant ce temps-là, grand-mère se tape la bonne en lui disant que les hommes sont menteurs. Comment voulez-vous, bonnes gens, que nos bonnes bonnes et que notre belle jeunesse ait le sens des valeurs?
Je ne regrette pas du tout le temps de l'enfance parce que je crois que ça n'est supportable qu'une fois. Je trouve ça bien long. Et j'en parle maintenant parfois dans une chanson, mais pas du tout avec regret. Enfin, je constate qu'à un moment donné, j'étais tout petit, j'avais des culottes courtes et pas de moustache, enfin, pas de barbe. Mais ce n'est pas du tout un regret. Ben, l'adolescence, ça fait partie, c'est la maladie de chien. Et on ne sait jamais même très bien quand finit l'enfance et quand commence l'adolescence. Ça a été un petit peu raté du fait de la guerre, quand même. Parce que j'avais 15 ans, 15-16 ans quand la guerre s'est terminée. Donc ça a bousillé le début de l'adolescence. Et l'adolescence, enfin, la même s'est passée assez seule. Au milieu de beaucoup de monde, mais enfin tout seul. Pratiquement sans amis.
France Inter.
Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Ohé, ohé.
Jacques Brel.
La 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 la.
Sur France Inter.
J'avais envie d'être. Je dis toujours Vasco de Gama, mais en fait, c'est pas lui. C'est aussi bien Cook que Magellan. Ça devait être prodigieux tout de même. Des gens qui partaient chercher les Indes. Il y avait juste ce paquet de terre qu'on appelle l'Amérique entre les deux. C'est quand même prodigieux. Enfin, ces gens partaient. Ils étaient. Il y avait une folie. Enfin. Véritable, était-ce de l'orgueil, il devait y avoir une part d'orgueil, une part d'inconscience, une part de volonté aussi, je sais pas. J'aurais bien aimé pouvoir faire ça.
Homme, souviens-toi que tu es poussière, que tu retourneras en poussière.
Amen.
Seigneur, recevez l'âme de notre compagnon dans votre très grand paradis. Amen. Amen.
À la soupe! À la soupe!
Chouette, la soupe est prête.
Oui.
On y va. J'étais bien, hein?
Formidable.
Avec qu'à te laisser porter.
Glad to see you better, ma'am.
Thank you very much.
En tout cas, ta mort était formidable, hein, Gabriel.
Ah oui, bravo, bravo.
La prochaine fois, il n'y a pas question que je joue les morts. C'est un truc à vous rendre malade. La prochaine fois, c'est moi qui tuerai.
Oui, si tu veux.
L'enfance, qui peut nous dire quand c'est fini? Qui peut nous dire quand ça commence, c'est rien. Avec de l'imprudence, c'est tout ce qui n'est pas écrit. L'enfance qui nous empêche de la vivre, de la revivre infiniment, à remonter le temps, de déchirer la fin du livre. Qui se dépose sur nos rides pour faire de nous de vieux enfants. Nous revoilà jeunes amants. Le cœur est plein, la tête est vide, l'enfant. Et le droit de rêver encore. Mon père était un chercheur d'or. L'ennui, c'est qu'il en a trouvé. Les adultes sont déserteurs, tous les bourgeois sont des Indiens. L'enfance, l'enfance.
Qu'est-ce qu'on fait demain?
La chasse aux bisons.
Les gens de ma génération ont été beaucoup nourris encore par Buffalo Bill. Enfin, il n'y avait pas les bandes dessinées, c'était Buffalo Bill, c'était tout ça. Et le Far West, c'était la chose extraordinaire qu'on allait découvrir plus tard, quand on allait être grand, enfin, quand les jambes auraient poussé, c'est, qu'on aurait cette taille extraordinaire qu'ont les adultes, quand c'est vu par les enfants. Et puis, ce n'est qu'évidemment que petit à petit qu'on s'aperçoit que le Far West, ça n'existe absolument pas. Et que sur 100 gars au démarrage, il n'y en a plus qu'un qui continue à 40 ans, à 45 ans, à inventer ce Far West, à croire qu'il y a quelque part des horizons formidables où tout peut recommencer comme on veut.
Il pleut, c'est pas ma faute à moi, les carreaux de l'usine sont toujours mal lavés. Il pleut, les carreaux de l'usine, il y en a beaucoup de cassés. Les filles qui vont danser ne me regardent pas, car elles s'en vont danser avec tout cela, qui savent leur payer pour pouvoir s'amuser, des fleurs de papier ou de l'eau parfumée. Les filles qui vont danser ne me regardent pas, car elles s'en vont danser avec tout cela. Il pleut, c'est pas ma faute à moi, les carreaux de l'usine sont toujours mal lavés. Les corridors crasseux sont les seuls que je vois, les escaliers qui montent, ils sont toujours pour moi. Mais quand je suis seul sous les toits, avec le soleil, avec les nuages, j'entends la rue pleurer, je vois les cheminées de la ville fumer doucement dans mon ciel à moi. La lune danse pour moi le soir, elle danse.
danse, danse, elle danse, danse, et son haleine immense adorne caresse. Le ciel est pour moi, je m'y plonge le soir, et j'y plonge ma peine.
Il pleut, et c'est ma faute à moi, les carreaux de l'usine sont toujours mal lavés. Il pleut, les carreaux de l'usine, moi j'irai les casser.
L'enfance, Far West de tous les possibles, symbolise ce rêve déchiré qui balise la vie et l'œuvre de Jacques Brel. Né à Bruxelles le 8 avril 1929, fils de Romain, patron d'une cartonnerie, et de Lisette, femme au foyer, Jacques, cadet de Pierre, passe ses vacances à la mer du Nord, adhère au scout catholique et parcourt une scolarité moyenne. Bref, une enfance de petit bourgeois ordinaire débouchant sur une adolescence traversée par la guerre. Heureusement, l'univers de la lecture le mène aux confins de son imaginaire et lui donne à jamais le goût du spectacle et de l'aventure.
France Inter.
L'enfant Jacques Brel, celui que j'ai appelé par après mon grand petit frère. À l'époque, il n'était que mon petit frère, donc.
Pierre Brel.
Il était très près de la maman. Je ne sais pas comment ça s'est produit, comment elle est arrivée à cette situation, mais assez rapidement, c'était le chouchou de la maman, et moi je suis davantage alors accroché au père. Et cette connivence avec la maman l'a fort marqué. La mère était spitante, vous voyez ce que je veux dire? Elle était toujours bout en train. Madame Brel ne sortait jamais avec les gens, c'était les gens qui sortaient avec Madame Brel. Elle avait fait un petit peu de théâtre dans un patronage quand elle était jeune, elle chantait un tout petit peu, et donc il y avait des affinités. C'était tout à fait ce lien particulier qu'il y avait entre Jacques et sa mère.
France Inter.
Vous ne dites rien. Qu'est-ce que ça vous fait de vous promener avec moi?
Oh, ça me fait fier. Vous êtes tellement belle.
Oh.
Si, si, c'est vrai.
Vous ne savez rien de moi. Vous n'avez même pas demandé comment je vivais. Eh bien, je n'ai plus de parents. Juste un frère en Italie, mais nous ne nous voyons presque jamais. Oh, le joli coquillage! Comme lorsque nous étions enfants. Je vous vois très bien, petit garçon. Vous deviez être très turbulent.
Non, je joue au petit soldat.
Écoutez, ça ne vous fait pas rêver?
Non, j'ai envie de dire... Allô? Allô?
Allô? Eh bien, moi, quand j'étais petite fille, j'étais très turbulente. Rêveuse et turbulente. Maman me disait toujours, toi plus tard, tu seras moitié Jeanne d'Arc et moitié Nini Patte en l'air.
Ce qui fait que j'ai pratiquement été élevé par ma maman.
Oui, parlez-moi d'elle.
Oh, ma mère. Une femme d'élite. Une artiste. Une musicienne.
Moi aussi, j'adore la musique.
Ah oui? C'est de la chance, parce que... comme ça, vous vous entendrez bien, toutes les deux.
Pourquoi? Vous avez l'intention de...
Oh, moi aussi, j'ai toujours eu envie d'avoir une maison. Une vraie maison à moi, avec presque pas de murs et des fenêtres tellement grandes qu'il y aurait du soleil dans les yeux des enfants. Et tout le monde rirait tout le temps, tout le temps.
Et où la voyez-vous, cette maison?
Au Texas.
Pour un peu de tendresse, je donnerai les diamants. que le diable caresse dans mes coffres d'argent. Pourquoi crois-tu, la belle, que les marins au port vident leurs escarcelles pour offrir des trésors à de fausses princesses pour un peu de tendresse? Pour un peu de tendresse, je changerai de visage, je changerai d'ivresse, je changerai de langage. Pourquoi crois-tu, la belle, qu'au sommet de leur chant, empereurs et ménestrels abandonnent souvent puissances et richesses pour un peu de tendresse? Pour un peu de tendresse, je t'offrirai le temps qu'il reste de jeunesse à l'été finissant. Pourquoi crois-tu, la belle, que monte ma chanson vers la claire dentelle qui danse sur ton front penché vers ma détresse pour un peu de tendresse?
Le père était beaucoup plus réservé. D'ailleurs, il y a une phrase assez caractéristique, une plaisanterie. Hein. Pour les 25 ans de mariage, je vois encore ma mère dire au père, elle l'appelait Pipe, parce qu'il fait belle la pipe de temps en temps. Dis Pipe, qu'est-ce que ta petite femme peut t'offrir pour ses 25 ans de mariage? Et le père qui répond sérieux comme tout, une minute de silence. C'était son style à lui. D'abord, il avait pris de l'âge, le père. Le père s'est marié tard, 42 ans. Hein. Donc le père était déjà âgé. Il aurait pu être notre grand-père directement. Il a assez mal pris le départ de Jacques de Lusitte, parce que ça ne correspondait pas à son plan, à son idée depuis toujours, les fistons vont continuer l'histoire. Mais dès qu'il y a eu la réussite, c'est toujours comme ça, je suppose, hein, il était fier des fistons. Mais il n'a jamais témoigné d'une chaleur apparente, le père. Non. Mais je me souviens aussi, nous avions un chien, un jeune chien. Eh bien, il avait eu un accident. Donc moi, j'avais ramené le chien, je ramenais le chien à la maison en pleurant. Et puis on achève le repas. Et pendant une demi-heure, le père a essayé de ranimer le chien. Eh bien, moi, j'étais stupéfait que mon père témoignait de tellement d'attention et de tellement de tendresse vis-à-vis de cet animal. C'était une révélation pour moi.
On dit toujours que je suis un fils de bourgeois, hein? Ce qui est vrai, mais je ne le savais pas. Comment veux-tu savoir que tu es fils de bourgeois? Moi, j'étais le fils de mes parents. Je ne savais pas que j'étais un fils de bourgeois. Et je ne l'aurais jamais su si je n'avais pas fait des chansons.
Fils de bourgeois ou fils d'apôtre, tous les enfants sont comme les vôtres. Fils de César ou fils de rien, tous les enfants sont comme le tien. Le même sourire, les mêmes larmes, les mêmes alarmes, les mêmes soupirs. Fils de César ou fils de rien, tous les enfants sont comme le tien. Ce n'est qu'après
longtemps après. Mes fils de sultan, fils de fakir, tous les enfants ont un empire sous voûte d'or, sous toit de chaume. Tous les enfants ont un royaume, un coin de vague, une fleur qui tremble, un oiseau mort qui leur ressemble. Fils de sultan, fils de fakir, tous les enfants ont un empire. Ce n'est qu'après, longtemps après, mes fils de ton fils, mon fils d'étranger, tous les enfants sont des sorciers. Fils de l'amour, fils d'amourette, tous les enfants sont des poètes. Ils sont bergers, ils sont rois mages, ils ont des nuages pour mieux voler. Fils de ton fils ou fils d'étranger, tous les enfants sont des sorciers. Ce n'est qu'après, longtemps après, mes fils de bourgeois ou fils d'apôtres, tous les enfants sont comme les vôtres. Fils de César ou fils de rien, tous les enfants sont comme le tien. Le même sourire, les mêmes larmes, les mêmes alarmes, les mêmes soupirs. Fils de César ou fils de rien, tous les enfants sont comme le tien.
Je crois que l'injustice la plus flagrante, c'est le comportement des adultes quand quelqu'un a 10 ou 15 ans. Parce que là, il n'y peut rien. Il n'est pas nécessairement avec ses parents, cet enfant. Enfin, moi, j'étais avec... Mais là, ça joue. Parce qu'en fait, je crois que toute la vie se décide au moment où, pour la première fois, un être doué de raison se demande si ce sont les adultes qui sont cons ou si c'est lui qui se trompe. Et effectivement, étant donné l'attitude des rares adultes qu'il peut côtoyer à ce moment-là, de cette attitude-là dépend la réponse qui est définitive pour l'enfant. Donc là, il peut y avoir une injustice.
Mon enfance passa de grisaille en silence, de fausse révérence, en manque de bataille. L'hiver, j'étais au ventre de la grande maison qui avait jeté l'encre au nord parmi les joncs. L'été à moitié nu, mais tout à fait modeste, je devenais indien. Pourtant, déjà certain que mes oncles repus m'avaient volé le Far West. Mon enfance passa, les femmes aux cuisines où je rêvais de Chine vieillissaient en repas, les hommes au fromage
gorge s'enveloppait de tabac flamant tes œufs et sage et ne me savais pas, moi qui toutes les nuits agenouillé pour rien arpégeais mon chagrin au pied du trop grand lit. Je voulais prendre un train que je n'ai jamais pris. Mon enfance passa de servante en servante. Je m'étonnais déjà qu'elle ne fût point plante. Je m'étonnais encore de ses rondes familles planant de mort en mort, et que le deuil habille. Je m'étonnais surtout d'être de ce troupeau qui m'apprenait à pleurer, que je connaissais trop. J'avais l'œil du berger, mais le cœur de l'agneau. Et mon enfance éclata, ce fut l'adolescence et le mur du silence. Un matin se brisa, ce fut la première fleur et la première fille, la première gentille et la première peur. Je volais, je le jure, je jure que je volais. Mon cœur, je n'étais plus barbare. Et la guerre arriva.
Avant la guerre, je croyais que le Far West, c'était quand même le grand paradis. Pour quand je serais grand, enfin, quand mes jambes iraient plus haut, quoi. J'irai vivre dans un Far West quelque part. Et puis, je regrette que la guerre ait duré 4 ans. Ça a été long. Mais je crois que c'est la seule chose que je regrette de ma vie.
France Inter.
Ce qui, pour moi, a dû être un de ses problèmes, et à l'époque, je ne m'en rendais pas compte, c'est que, par suite de circonstances un peu farfelues, on m'a dirigé vers le scoutisme. Et quand Jacques est arrivé, à l'âge où il pouvait être louveteau, puisque chez les scouts, il y a les louveteaux, et puis après les routiers, on l'a aussi embrigadé. Et je pense que ça a été une erreur à la base, parce que lui, il n'aimait pas du tout ce style de vie rude, ces efforts qui, pour lui, ne ressemblaient à rien, enfin, il n'aimait pas du tout ça. Il avait un totem. J'étais le morse phlegmatique. Exemple aussi de cette triste influence que j'exerçais involontairement sur lui à l'époque, n'est-ce pas? On l'a baptisé, lui, le phoque. Le phoque, simplement parce que j'étais le morse. Et il la rend à la rigueur, ça là.
L'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore et l'aurore nous guide en chemin. L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin. Pour Martin, c'est le fer sur l'enclume. Pour César, le vin qui chantera. Pour Yvon, c'est la mer qui l'écume. C'est le jour qui s'allume, c'est le blé que l'on bat. L'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. Tout
ce que l'on cherche à redécouvrir fleurit chaque jour au coin de nos vies. La grande aventure, il faut l'accueillir entre notre église et notre mairie, entre la barrière du grand-père Machin et le bois joli de monsieur le baron, et entre la vigne de notre voisin et le doux sourire de la Madelon.
La Madelon, l'aventure commence.
En réalité, il m'avait un peu surpris par cet idéal qui transperçait dans ses chansons. Je pense que il a donc chanté au début à la Franche Cordée. Hein. C'était pendant la guerre, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. C'était un mouvement de jeunes, où, chose rarissime pour l'époque, il y avait à la fois des filles et des garçons. Et comme activité, ils allaient dans les hôpitaux, dans les cliniques, ou dans les sanatoriums, dans les hospices et tout ça. Et ils chantaient, ils faisaient des petits sketchs. Et c'est en faisant ça, et en étant donc guidés par des gens qui avaient vraiment un esprit de rendre service et de faire œuvre utile, et qui eux étaient chrétiens, qu'il a alors commencé à faire apparaître dans ses textes cet idéal que je trouve bien.
Après la guerre, ça devait être 45-46. Oui, 46 plutôt.
Jacques Zwick, ami d'enfance.
Nous faisions partie d'un mouvement de jeunesse qui s'appelait la Franche Cordée. Il ne suffisait pas d'une cordée, il fallait qu'elle soit franche. C'était un peu l'époque de la logomachie saint-exupérienne. Ce mouvement avait été créé pendant la guerre, alors que les organisations de jeunesse étaient interdites. C'était un mouvement mixte, garçons et filles. Et alors Jacques y est venu par un de ses copains qui y était, et bien entendu tout de suite il y a pris, comme partout où il passait, assez bien de place. Disons que c'était un leader, c'était quelqu'un dans un groupe. Bon, ça se voyait, c'était pas personne, et c'était pas non plus un gars du troupeau. C'était un gars qui sortait du lot. Et alors assez vite, tout de même, parmi les copains, il s'est mis à chanter des chansons dans des petits groupes. Alors nous, on était très épatés.
Pour Martin, c'est le fer sur l'enclume. Pour César, le vin qui chantera. Pour Yvon, c'est la mer qui l'écume. C'est le jour qui s'allume, c'est le blé que l'on bat.
L'aventure commence à l'aurore. Que l'aurore nous guide au chemin. L'aventure, c'est le trésor. Que l'on découvre à chaque matin. Martin.
Je crois que quand on est vilain tout petit, on se passe très vite de soi en tant qu'être prioritaire. Ça doit être très difficile d'être beau à 15 ans. Pour l'avenir. Parce qu'on s'aperçoit très vite, quand on n'est pas beau, ce n'est pas du tout un complexe, c'est un constat, que l'intérêt qu'on peut avoir n'est pas en soi, mais dans le mouvement que l'on peut éventuellement avoir, ou dans l'apport que l'on peut éventuellement faire aux autres. Alors que les gens beaux, si vous voulez, le pôle d'intérêt, c'est eux. Et s'ils ne sont pas extrêmement vigilants, ils finissent par croire. Qu'ils existent. Quand on est beau, on se suffit, n'est-ce pas? Enfin, on suffit. Mais on devient vite suffisant en vieillissant, sans doute. Je crois que c'est un grand danger d'être beau au démarrage.
Mère des gens sans inquiétude, mère de ceux que l'on mère des saintes habitudes, princesse des gens sans remords, salut à toi, dame bêtise, toi dont le règne est méconnu. Salut à toi, dame bêtise, mais dis-le-moi, comment fais-tu pour avoir tant d'amants et tant de fiancés, tant de représentants et tant de prisonniers? Pour tisser de tes mains tant de malentendus et faire croire aux crétins que nous sommes vaincus. Pour fleurir notre vie de basses révérences, de mesquines envies, de nobles intolérances, de mesquines envies, de
noble tolérance, de mesquines envies, de noble tolérance. Mère de nos femmes fatales, mère des mariages de raison, mère des filles à succursales, princesse pâle du frisson. Salut à toi, dame bêtise, toi dont le règne est méconnu. Salut à toi, dame bêtise, mais dis-moi comment fais-tu pour que point l'on ne voie le sourire entendu qui fera de vous et moi de très nobles cocus, pour nous faire oublier que les putains, les vrais, sont celles qui font payer, pas avant mais après, pour qu'il puisse m'arriver de croiser certains soirs ton regard familier au fond de mon miroir, ton regard familier au fond de mon miroir, ton regard familier au fond de mon miroir.
Est-ce que tu as pu mesurer quelquefois la conséquence humaine de tes chansons ?
Brel au micro de Jean-Pierre Chabrol.
France Inter.
Écoute, je vais te dire, là c'est très emmerdant comme question parce que c'est la responsabilité de ce qu'on écrit. Si je te dis oui, je me rends compte que ça a quand même fait un petit quelque chose, je suis un crétin gonflé d'orgueil. Si je te dis non, je suis un con inconscient. Je crois que ça a quand même amené une petite vibration, enfin, si tu veux. Petite envie. Oui, et bien alors, si on commence à penser un peu trop à ça, on ne fait plus jamais rien, je crois. Tu crois pas?
Toi, si.
Moi, si je commence à y penser sérieusement, c'est la paralysie. Immédiate.
Tu crois?
Ouais. Parce qu'on doit faire certainement du mal aussi, quelque part.
Je crois pas que tes chansons fassent du mal.
Quand tu pousses les enfants à la révolte, enfin moi je pousse un peu, je pousse un peu les enfants sages à la révolte. C'est bien, oui, c'est peut-être pas bien non plus. Hein.
Ça dépend.
Et pourtant je crois qu'il faut que je... Ça dépend.
Même si un jour à Knokke-le-Zoet, je deviens comme je le redoute, chanteur pour femmes finissantes. Même si je leur chante des corazones avec la voix bandonnéante dans l'argentin de Carcassonne. Même si on m'appelle Antonio, que je brûle mes derniers feux en échange de quelques cadeaux, madame, j'ai fait ce que j'ai peu. Même si je me saoule à l'hydromel pour mieux parler de virilité, allume mes mères décorées comme des arbres de Noël. Je sais dans ma soulographie, chaque nuit pour des éléphants roses, je leur chantais ma chanson rose, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement, oui. Être une heure, quelquefois. Être une heure, rien qu'une heure durant. Beau, beau, beau et con à la fois. Même si un jour à Macao, je deviens gouverneur de tripots, cerclé de femmes languissantes. Même si là c'est d'être chanteur, j'y sois devenu maître chanteur, et que ce soit les autres qui chantent.
on m'appelle le beau Serge, que je vends des bateaux de vium, du whisky de Clermont-Ferrand, de vrais pédés, de fausses vierges. Que j'ai une bague à chaque doigt et un doigt dans chaque pays, et que chaque pays soit à moi, je sais quand même que chaque nuit, tout seul au fond de ma fumerie, pour un public de vieux chinois, je leur chanterai ma chanson à moi, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement.
Oui, Michel.
Être une heure quelquefois.
Rien qu'une heure.
Être une heure, rien qu'une heure durant. Beau, beau, beau et con à la fois. Paradis, je devienne, comme j'en serais surpris, chanteur pour femme à aile blanche. Même si je leur chante Alléluia, en regrettant le temps d'en bas, où c'est pas tous les jours dimanche. Même si on m'appelle Dieu le Père, celui qui est dans l'annuaire, entre Dieu le Fils et Dieu vous garde, même si je me laisse pousser la barbe. Même si toujours trop bonne pomme, je me crève le cœur et le pur esprit à vouloir consoler les hommes. Je sais quand même que chaque nuit, j'entendrai dans mon paradis les anges, les saints et Lucifer me chanter ma chanson de naguère, celle du temps où je m'appelais Nagui. Être une heure seulement. Être une heure quelquefois. Être une heure. Rien qu'une heure durant, beau, beau, beau et con à la fois.
Brel, aimé jusqu'à la déchirure. Une série proposée par la Communauté des radios publiques de langue française et présentée par Morane. Archives sonores et production, INA, France Inter, Radio Suisse Romande, Société Radio-Canada et RTBF. Producteurs délégués Hélène Azera et Jean-Charles Simon. Mixage, Roland Fortan, Jean Cobergs, Pierre-Joseph Ranquin. Réalisation Ninette Godefroy, une production de Philippe Luters.